pour cette émission littéraire Jackie Siméon pour son dernier ouvrage « Sur la route des taureaux ». Jackie Siméon, vous étiez un rasteur notoire et aujourd'hui vous écrivez. Aux éditions du Diable Vauvert, vous avez déjà publié un incontournable dictionnaire de la course camarguaise et un roman, Le cours du destin, et chez Actes Sud, des nouvelles et votre autobiographie. Donc je peux très bien dire que c'est un nouvel ouvrage, un dernier ouvrage. Alors l'intérêt que j'ai porté à ce bel album, hein, Sur la roue des taureaux, porte autant sur la forme, l'écriture, les photos, la mise en page, vraiment l'aspect graphique du livre, mais aussi sur le fond. Merci d'être avec nous, Jackie Siméon, et bonjour.
Merci à vous de me recevoir.
C'est un honneur pour moi, sachez-le. Alors, Sur la roue des taureaux, c'est... Moi, j'ai vécu ça comme un livre de voyage, hein, certes très circonscrit, mais vous nous dites, dès l'introduction, la route des taureaux démarre du village de Pérol pour traverser plusieurs villages de l'Hérault, se diriger vers le Gard et partir en Provence. Et quelques lignes plus loin, vous précisez, pour mieux comprendre cette passion, donc la course camarguaise, puisqu'il s'agit de cela dont nous allons parler, l'analyse de la situation géographique a son importance. Alors qu'est-ce que c'est que cette géographie de la course camarguaise, Jackie Siméon ?
Mais il faut savoir que la course camarguaise, ça se déroule dans un triangle qui va de Montpellier à Istres jusqu'à Avignon. Voilà, tout se passe là. Et chaque fois qu'on a voulu transporter le spectacle ailleurs, ça n'a jamais très bien fonctionné. Donc voilà, donc c'est pour ça que dans le livre, je pars du village de Pérol, qui est mon village de naissance. Il n'y a pas de statue de taureau, j'aurais bien aimé qu'il y en ait une. Quand même, je l'ai même proposé au maire, mais ah. Bon, ça, c'est à lui à décider.
Il est attentif à cela ?
Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y avait un taureau qui s'appelait Joujou, qui avait mis en valeur la reine de Pérol, et bon, ça serait bien qu'un jour, il y ait peut-être une statue de ce taureau. Et donc voilà, donc je suis parti de là, c'est parce que ça me faisait plaisir, j'avais envie qu'on parle aussi de mon village. Et puis voilà, c'est un itinéraire à la gloire des cocardiers. Donc voilà, de village en village, j'ai suivi tous les taureaux célèbres. Parce que c'est des taureaux célèbres, c'est pas une statue de taureau, c'est quand même nominatif. Chaque taureau a son nom et connu des aficionados en général.
C'est vrai. Alors vous le disiez, vous vous êtes arrêté donc dans 16 lieux qui ont ou bien érigé, vous le disiez, des statues de cocardiers, hein, à proximité ou pas d'arènes. D'ailleurs, il y a des villes, des villages qui n'ont pas non plus d'arènes, mais que vous avez sélectionnés. Vous l'avez dit, vous commencez à Perras pour terminer justement à Sénas, ce petit village où il n'y a pas d'arènes. Pourtant, vous l'avez aussi sélectionné. On est déjà dans la vallée de la Durance, là.
Oui, parce qu'il y a une statue de taureau. Donc, il y a des aficionados. Qui suivaient justement ce taureau, ce célèbre taureau Camarina, qui a eu trois grands trophées, qui ont voulu statuer leur taureau, mais qui ont voulu que la statue soit dans leur village. Donc voilà, ça aurait été préférable qu'elle soit dans les arènes de Château-Renard, qui est la reine de prédilection de ce taureau. Mais voilà,
bon, c'est à Sénas.
Voilà, c'est à Sénas que ça se passe.
Qui fait donc partie de cette route.
Oui.
Alors, vous nous dites aussi, notamment lorsque vous évoquez Pérol, que les taureaux et le village de Pérol ont toujours été en parfaite harmonie. Alors, comment est-ce que vous qualifieriez cette parfaite harmonie ? Qu'est-ce que c'est que cette harmonie ?
Cette harmonie, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette passion, parce qu'il faut savoir que Pérol, le territoire, il y a une partie qui est... la végétation est un peu... qu'elle ressemble un peu à la Camargue. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais on est au bord de l'étang de l'Or, et donc c'est un peu la Camargue qui arrive jusqu'à Pérol. D'ailleurs même, on l'avait baptisé les portes d'or de la Camargue, donc c'est pour cette raison-là. Et donc, il y avait même des taureaux qui venaient paître autour du village de Pérol. Donc, il y a toujours eu un lien, il y a toujours des courses de taureaux. Au départ, dans le village, on faisait des ronds avec des charrettes, et on a fait des courses de taureaux. Et puis, en 1960, les aficionados du village se sont un peu cotisés. Ceux qui avaient de l'argent ont apporté leur soutien, et la municipalité a construit des arènes. Et depuis, voilà, il y a des courses de taureaux. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes périodes, des périodes moins bien, voilà. Mais les années 70, quand nous, on est arrivés, les frères Siméon, ça a vraiment été l'explosion dans les arènes de Pérol.
Donc les frères Siméon, c'est de votre génération ? C'est votre fratrie ?
Oui, c'est mes deux frères. On a commencé, mes deux frères, Jean-Pierre et Raymond, tous les trois, on a raseté. Il faut savoir que sur sept garçons qu'on a, il y en a six qui sont descendus dans l'arène, des frères Siméon. Donc voilà.
C'est une histoire aussi de sang, alors.
Oui, je ne sais pas si c'est une histoire de sang, mais on pensait toujours que j'étais une famille de raseteurs d'aficionados, alors que ce n'était pas le cas.
Alors, vous le disiez aussi, en amont d'une course camarguaise, il y a donc ces aficionados, il y a l'aficion d'hommes et de femmes pour le taureau. Et vous citez comme ça des personnalités dans chacun de ces villages qui ont une importance déterminante. Par exemple, j'ai pu relever Louis Gros qui est à Moggio. Vous citez aussi les frères Rado, la manade Rebuffa à Lunel, Fanfone Guilherme à Aimargues, Jean Lafont à Caylar. Donc c'est toujours une histoire quand même de personnes qui ont compté pour que s'installe cette tradition de la course.
Oui, le livre, il y a plusieurs volets. Hein. Il y a d'abord le territoire, le village que je décris, avec les bâtiments qui sont classés ou les trucs comme ça. Après, il y a un deuxième volet, c'est la statue du taureau. Donc, je parle du taureau en général, de son comportement, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a gagné, tout ça. Le troisième volet, c'est peut-être les personnalités. Il n'y en a pas partout, mais...
Oui.
Voilà, il y a Jean Lafont, il y a même Louis Nicolin, il y a le marquis de Baroncelli. Et donc, il y a le quatrième volet, c'est un peu des anecdotes, parce que, bon, faire un livre avec des statues, c'était un peu triste, quoi. Voilà. Donc, Marion m'a dit peut-être qu'il faudrait l'égayer un peu et raconter un peu des histoires, du vécu un peu.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis une anecdote dans chaque village ou dans chaque arène où j'ai passé.
Voilà. Oui, ça devient un texte très personnel, cette troisième partie que vous évoquez, écrite d'ailleurs en typographie rouge. C'est connaissance personnelle.
C'est mon vécu, quoi.
C'est votre vécu. Voilà, ouais. Exactement. Et alors, ce que vous dites me fait penser aussi qu'en effet, pour chaque village que vous allez traverser, donc, vous faites toute une histoire de ce village. On apprend énormément de choses sur le Caylar et sa dimension historique, sur les bâtiments.
Oui, parce que bon, les gens ne connaissent pas particulièrement ces villages. Il y a des choses intéressantes à voir. Donc voilà, je souhaitais que les gens, quand ils vont arriver dans le village, qu'ils aient pas simplement le désir d'aller voir la statue, mais aussi de visiter le village et de le découvrir.
C'est ça. C'est sur la roue des taureaux, mais avec vraiment cette ambition d'en faire presque un guide touristique riche.
Oui, c'est parce que les gens qui arrivent dans la région, ils prennent le livre, ils puissent suivre un peu. Bon, ils ne sont pas obligés de faire tous les taureaux, mais ils peuvent en faire plusieurs. Parce que c'est vrai qu'il y a autour du Caylar, par exemple, là, il y a 4 ou 5 villages où il y a des statues et qui sont très intéressants. Quoi.
Alors, je me suis demandé aussi, quand vous citez tous ces noms, vous avez rajouté celui de Louis Nicolin, qui lui est à la Tour d'Anglas, comment est-ce que ça s'organise, ces relations avec ces personnes-là? C'est souvent des manadiers qui sont là à l'origine ou...
Oui, en général, c'est des gens que j'ai connus. La plupart, bon, le marquis de Baroncelli, je n'ai pas connu, mais bon, c'est quand on rentre dans la bouvine, quand on veut avoir des connaissances, quand on s'intéresse à la tauromachie, on découvre le marquis de Baroncelli avant tout, qui lui a un peu participé à créer le costume du gardien, et tout, c'est un personnage qui a fait beaucoup pour la course camarguaise.
Leur influence est grande.
Pour la tradition et le costume. Oui, bien sûr, voilà. Mmh. Et après, bon, Jean Lafont, j'ai connu, Fanfone Guilherme aussi. Donc, je raconte des histoires où, quand j'ai mangé chez eux ou quand j'ai été présenté pour la première fois. Ou Louis Nicolin aussi. Bon, je le connais pas particulièrement, mais j'ai rencontré plusieurs fois. Donc, et je parle de Louis Nicolin parce qu'il avait deux manades de taureaux à l'époque.
Ouais.
Et puis, il a statufié un taureau dans ses prés chez lui. Donc, voilà. Donc, c'était normal que je parle un peu de lui.
Quand vous évoquez le Caylar, vous en parlez, vous l'identifiez comme la Mecque de la Bouvine. Pourquoi cette particularité au Caylar?
Oui, parce que c'est un village qui a voulu rester authentique. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est resté comme il y a 50 ans. Il n'a pas beaucoup bougé, il n'a pas beaucoup évolué. Même si on voudrait bien qu'il évolue, mais les gens sont comme ça. On disait que c'est les gens du terroir et ça n'a pas trop bougé. Donc c'est pour ça que je l'identifie, la Mecque de la Bouvine. Mais le terme, il n'est pas du mien. Il est d'un écrivain célèbre, c'est Combesco qui avait dit que c'est la Mecque de la Bouvine.
D'accord, donc c'est vraiment qualifié cela dans cette littérature de la course camarguaise. Alors, donc j'ai commencé par ces personnalités des manadiers, mais les acteurs humains du spectacle de la course camarguaise sont quand même les raseteurs et les tourneurs. Qu'on voit, nous, quand on arrive dans une course, on ne perçoit pas toutes ces nuances que vous précisez dans le livre, mais ce qu'on voit, ce sont ces hommes en blanc dans l'arène. Et vous nous dites, là ailleurs que dans ce livre, vous nous dites dans le dictionnaire de la course camarguaise, qu'un bon raseteur a une éthique, une déontologie, qui n'est pas inscrit dans le règlement, mais qui se transmet de génération en génération. Alors, Jacky Siméon, c'est quoi la psychologie du raseteur ?
Oui, l'important, ils n'ont pas tous conscience que c'est un spectacle, mais voilà, c'est ça.
D'accord, ils n'ont pas tous conscience de ça.
Non, ils n'ont pas tous conscience que ça, parce qu'il y a certains qui pensent que c'est quand même un sport et que le résultat est important. Mais l'aficionado, lui, ce qu'il recherche, c'est qu'on mette en valeur le taureau et créer de l'émotion, du spectacle, voilà. Et ils n'ont pas tous conscience de ça et c'est dommage, voilà.
Beaucoup de rasteurs sont cités dans votre dictionnaire, mais aussi beaucoup sont cités dans le livre sur la route des taureaux. Vous leur laissez quand même aussi une place. Vous laissez une grande place aux taureaux, mais une grande place aux rasteurs.
Oui, il faut savoir que quand même dans la course camargaise, la vedette, c'est quand même le taureau avant tout.
Hein. Oui, j'ai bien compris.
Non, mais il ne faut, faut pas que le taureau soit considéré comme le ballon de football. Il faut que ce soit... C'est le clou du spectacle. Hein, voilà. Et donc, il y a des raseteurs qui se sont hissés au niveau des taureaux. C'est pour ça que c'est devenu des vedettes aussi. Mais il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre et le taureau est important. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je me suis posé la question, mais pourquoi dans cette région on élève des statues à des taureaux? Je ne sais pas si je suis arrivé à répondre à ça, mais c'est surprenant. Parce que je raconte aussi qu'Hemingway, un jour, il se rendait à Pampelune. Et il a dévié sa route parce qu'on lui avait dit qu'on avait élevé un mausolée à la gloire d'un taureau. Je pense que ça devait être le sanglier, le taureau, le sanglier. Donc ça le surprenait, il ne pensait pas que ce soit possible. Parce que dans la corrida, ce n'est pas le taureau qui est la vedette, c'est le taureau héros. Donc, donc c'est là la différence avec la course camargaise.
Ouais. Alors je vois bien que vous ne voulez pas me laisser aller dans mon fil directeur de mon émission. Mais nous allons donc évoquer les taureaux en effet. Le taureau, je l'ai bien compris dans votre livre, c'est vraiment le seigneur de la course camargaise. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, vous parlez des taureaux comme si c'était des hommes. Ils sont des tellanés. Ils ont une véritable biographie, ces taureaux, avec des noms comme Joujou, Muscadet, Gardon, Barral, Pascalet, etc. Alors, donnez comme ça. Est-ce que ces taureaux répondent à ces prénoms-là, à ces noms-là? Est-ce que lorsque vous les appelez dans l'arène, est-ce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont appelés Muscadet, par exemple?
Ça, je ne sais pas. Ça, c'est compliqué. C'est quelque chose de particulier. Oui, je raconte aussi qu'un manadier me disait que le taureau jouait avec moi. Je ne suis pas sûr qu'il vraiment y jouait, mais je pense qu'ils ont quand même un odorat qui est développé. Et je pense qu'ils doivent sentir quand même qu'ils doivent reconnaître les raseteurs, l'un ou l'autre. Donc, voilà.
Ils les reconnaissent?
Je pense que certains doivent le reconnaître, pas tous, peut-être, parce que souvent, quand un taureau attrape un raseteur, il réagit plus sur celui-là que sur les autres. Alors, on voit un peu la différence.
Et est-ce qu'un taureau sait anticiper une action d'un raseteur?
Bien sûr. On a, c'est une sélection et sur la génétique, c'est génétique. Il y a des taureaux qui anticipent, qui démarrent avant que le rasetteur ait démarré, qui savent déjà où va aller le rasetteur, donc ils anticipent le rasé. Donc c'est les taureaux, c'est la particularité du taureau Camargue. Le taureau espagnol a pas ça dans ses gènes. Donc, on sélectionne plus loin la noblesse, alors que là c'est surtout cette qualité d'anticipation qui va mettre en danger le rasetteur. Plus c'est compliqué pour le rasetteur, plus ça crée de l'émotion et plus ça crée du spectacle.
Ouais. Et le taureau a-t-il conscience de ce spectacle aussi ou pas du tout ? Quand il se jette dans les barrières, là ?
Ouais, peut-être qu'il a conscience, mais ça c'est difficile à expliquer. Il y a des taureaux qui se placent, qui attendent et que crac-crac, ils font le spectacle. Mais enfin, le taureau, s'il fait le spectacle, c'est qu'il se trouve prisonnier de la reine et donc il devient agressif. Voilà.
Quand vous étiez rasetteur, il y avait des taureaux avec lesquels vous préfériez...
Oui,
comment
bien sûr,
vous diriez jouer? Vous diriez quoi? Vous diriez
Je dirais pas jouer,
raseter,
oui. Il y a des taureaux qui s'accordent à chaque rasetteur. La manière de raseter est un peu différente. Et donc, moi, c'est ce taureau qui est en couverture du livre, qui s'appelait Pascalier qui s'accordait bien avec ma façon de raseter.
Vous parliez des statues dans ces différents villages. Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de production de ces statues-là ou est-ce qu'au contraire, on est dans une période moins faste pour rendre gloire aux taureaux?
La tauromachie, c'est cyclique. Il y a des périodes de très fortes, très puissantes. Il y a des grands taureaux, des grands rasetteurs et puis d'autres, il y en a qui sont un peu moins évidentes. En ce moment-là, c'est pas trop la bonne période. Hein. On manque un peu de taureaux, même s'il y a quelques bons rasetteurs qui travaillent bien en piste, mais il manque un peu de taureaux célèbres, de taureaux vedettes. Donc peut-être aussi qu'il faudrait évoluer, faire changer les règles, parce que les hommes sont devenus des sportifs. Ils sont peut-être moins techniques qu'une période, mais ils sont plus sportifs. Et donc le taureau, il subit plus. Et moi, je pense qu'il faudrait changer les règles. Bon, j'ai deux ou trois idées, mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est la fédération de la course camarguaise.
Les règles, le règlement de l'organisation.
Oui, créer un peu plus de difficultés chez les rasetteurs face aux taureaux, voilà, pour qu'ils puissent se mettre en valeur.
Dans la course camarguaise, il y a aussi les tourneurs qui sont là.
Oui, les tourneurs qui sont un peu décriés parce que souvent ils font pas du bon travail. Voilà. Mais le tourneur, faut savoir qu'il sert à placer le taureau au rasetteur. Voilà, pour que l'homme parte dans de bonnes conditions, ou pour le lui masquer au départ du rasé. Voilà,
Alors, est-ce qu'il y a un tourneur qui est adapté, comment dire, qui est en binôme avec un tourneur ou pas?
Moi, quand j'ai commencé à raseter, chaque raseteur avait son tourneur, donc il y en avait beaucoup plus que maintenant. Et maintenant, c'est simplement les meilleurs qui ont le droit de... C'est en fonction du classement des raseteurs, et donc c'est toujours les meilleurs qui ont des tourneurs. Quoi.
Maintenant que vous avez arrêté ce métier de rasteur, est-ce que l'écriture a remplacé tout cela ou suffisamment?
Parce que moi j'ai reçu un très grave coup de corne, et donc après j'ai eu un vide, il a fallu que je me suis retiré de l'arène. Bon, j'ai voulu retourner dans l'arène pour 4 courses parce que je voulais pas que ce soit le taureau qui me dicte le moment où je devais me retirer, mais voilà, j'y suis retourné, mais après j'ai eu un manque parce que pour se retirer de l'arène, on se prépare, ça prend plusieurs années, et donc là, ça est arrivé d'un coup, donc j'ai un peu déprimé pendant quelques années, et je ne savais pas ce que faire pour continuer à suivre ma passion. Bon, ben je lisais beaucoup, surtout ça, et puis un jour, j'ai eu un article de Marguerite Duras, qui disait qu'en fait, tout le monde est capable d'écrire, tout le monde a une histoire en soi, il suffit de se mettre à table et de le raconter, et voilà, de se faire mal, de faire souffrir, parce que le meilleur est surtout ce qu'on a intérieurement et qui est difficile à sortir. Quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire, et puis voilà, et j'ai commencé par la fin, on peut dire, parce que normalement, quand on fait une autobiographie, on la fait à la fin de sa vie. Et moi, j'ai commencé par l'autobiographie, j'ai appris à écrire en écrivant, voilà.
Ouais.
Donc, et comme dit Marion, toujours, elle me dit, toi, c'est une renaissance par l'écriture. Voilà, j'ai eu, parce que bon, comme j'ai eu 2 arrêts cardiaques, je suis carrément mort dans l'arène, et l'écriture, ça a été une thérapie. Ça m'a permis de continuer à vivre ma passion là, à travers l'écriture. Je fais un peu de radio aussi, un peu de télé, j'ai commenté des courses aussi, et voilà, donc C'est une façon à moi de vivre, de continuer à vivre cette passion et d'être mieux dans mon corps et dans ma tête.
Ce livre-là, on l'a vu sur la route des taureaux, donc aux éditions du Diable Vauvert, est à la fois un livre touristique, je trouve que c'est un mot un peu banal pour le décrire, mais c'est quand même tout un parcours, on l'a dit, dans les différents lieux entre Pérol et Sénas. Est-ce qu'il y a un lieu qui vous est particulièrement proche?
Oui, moi c'est...
Beaucaire ou un autre?
Non, c'est pas Beaucaire, parce que Beaucaire, je m'occupe avec mon frère des arènes de Beaucaire, ouais. Là, j'en dirige les arènes.
D'accord.
Et donc ça, mais moi c'était les arènes de Lunel quand je rasetais. Voilà.
D'accord, Lunel était votre lieu?
Oui, c'est l'arène la configuration de l'arène correspondait bien à ma façon de raseter. Et puis, j'avais dit que si je venais à mourir en activité, je voulais que je sois incinéré, qu'on jette les cendres sur les arènes de Lunel, voilà, et qu'ils soient foulés par des taureaux. Donc, voilà. Je crois que je raconte de ça dans l'autobiographie.
Je ne l'ai pas lu encore.
On va la rééditer chez Diable Vauvert.
Au Diable Vauvert, elle est épuisée aux éditions
Actes Sud. C'est épuisé chez Actes Sud.
D'accord.
Et comme je voulais une nouvelle édition, donc voilà, j'ai demandé à Marion aussi.
Oui, donc vous allez aussi la reprendre.
Oui. Non, peut-être pas la reprendre, mais on va la rééditer, on va peut-être refaire une couverture, refaire un cahier photo.
Pas forcément, ah oui, des photos. Voilà. Et Lunel, donc Lunel, ce sont plutôt des arènes de dimension modeste. Est-ce qu'elles ont d'autres particulières?
C'est modeste, on va dire que c'est modeste quand même, ça fait partie des grandes arènes, le cercle est assez grand, c'est une grande arène.
D'accord.
Oui. Et là, on sait qu'elles ont été démolies, elles vont être reconstruites, elles seront prêtes, je crois, en 2018, fin 2018.
C'est ça. Exactement, c'est en travaux en ce moment.
Oui, oui.
Oui, absolument. Alors, il y a un aspect que sur la course camarguaise que je n'ai pas trouvé dans vos écrits, c'est tout l'aspect économie de la course camarguaise. Pourtant, Dieu sait, quand on va aux courses, on entend régulièrement l'animateur faire donner le montant des enchères, des primes au rasteur qui va récupérer les différents attributs sur le taureau. Là, vous en parlez, il n'y a même pas dans le dictionnaire, un petit alinéa, un petit paragraphe sur économie, la course camarguaise. Donc, ça vous intéresse
pas? Oui, parce que c'était au départ, maintenant c'est un peu différent, hein, mais au départ, la course camarguaise, on payait en liquide, c'était l'argent qui passait, on ne savait pas trop. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que ce n'était pas évoqué, mais bon, je raconte quand même un jour où j'ai reçu une grosse somme d'argent pour Rosette et Pascalier.
C'est vrai.
Voilà, c'est vrai. Mais...
Sous forme d'anecdote.
Oui, c'était une anecdote. Mais parce que ça représente, la somme était tellement importante pour moi, c'était le tiers de la maison que j'avais achetée, donc c'était. Voilà.
On est toujours dans ces sommes-là aujourd'hui
ou... Non, pas du tout. C'est exceptionnel. Mmh. Voilà. Mais bon, il y a des bons cachets. Il y a des bons rasetteurs qui touchent quand même des cachets. Mmh. Mais ce n'est pas des sommes comme ça. Mmh. Je ne sais pas. Moi, j'ai gagné de l'argent. J'ai investi. J'ai beaucoup d'immobilier. Donc, voilà. Je savais gérer le truc. Maintenant, tous les rasetteurs ne savent pas gérer. Il y a beaucoup qui ont gagné de l'argent et qui se retrouvent avec pas grand-chose quand ils ont terminé. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que des fois, quand on me demande d'aller dans les écoles taurines, de parler, alors j'explique comment ça fonctionne. Quoi. Parce que le rasetteur, il a une part d'engagement, il a une part sur les cocardes. Donc voilà, je leur dis toujours, vous gardez les cocardes, les cocardes, vous vivez avec ça, et l'engagement, vous mettez de côté. Vous verrez qu'à la fin de la saison, ça vous fera une belle petite somme. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Et voilà, moi, je vis toujours de la tauromachie, de ma passion.
Ouais. Ouais. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la réédition de votre autobiographie au Diable Vauvert. Avez-vous d'autres projets d'écriture au-delà de celui-ci? On peut encore dire des choses?
Oui, bien sûr, je suis en train d'écrire un livre sur Jean Lafont, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça me passionne aussi. Donc j'y travaille beaucoup et... On va essayer de le sortir rapidement parce que Marion me dit quand il y a un décès comme ça, dans l'année qui suit, il faudrait sortir le livre.
Elle a l'aspect marketing de la chose. Il faut quand même le temps de l'écrire.
Oui, voilà. Mais c'est pour ça que je travaille beaucoup en ce moment dessus. Voilà, et puis ça me plaît. Et puis je fais des recherches. Puis je découvre pas mal de choses. Parce que on pense toujours qu'on connaît tout. Et on a des surprises. Parce que des fois, vous savez, c'est les légendes. Comme ça, on vous raconte des histoires qui ne sont pas tout à fait vraies.
Il faut les vérifier.
Voilà. Donc bon, je sais pour moi aussi. J'entends, chaque fois, on me parle de ma carrière. On m'explique des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Ou qui sont corrigées. Ou qui sont améliorées. Et tout ça. Donc je sais que pour tout le monde, c'est comme ça.
Merci, merci Jackie Simon de vous être arrêté dans les studios du FM+. Alors, je vous attends alors pour vos prochains ouvrages.
Mais ce serait avec plaisir.
Merci Jackie
Simon. Merci à vous.